Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Révision du fichier électoral, coup d'envoi aujourd'hui dans les provinces qui constituent la deuxième ère opérationnelle. Le président de la CENI est à Kananga pour lancer cette opération. Pour le Kasaï central par exemple, un peu plus de 15 millions d'électeurs y sont attendus. Nord Kivu, reprise des affrontements ce matin entre le M23 et les FARDC et Mai Mai sur les deux lignes de front dans le Massissi et le Rutshuru. La situation reste tendue aujourd'hui et plusieurs sources affirment la suspension du trafic sur l'axe Massissi-Kichanga depuis ce matin. Et puis, le RENADEF invite l'État congolais à rétablir son autorité dans tout le territoire de Kabambare dans le Maniema. Allusion faite aux images dans les réseaux sociaux montrant les exactions contre les jeunes filles, notamment à Kabambare. Pour en parler, nous recevons Marie Nyombo Zaina, la coordonnatrice nationale de cette ONG. Madame, Messieurs, bonjour. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, est à Kananga pour lancer ce mercredi les opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs pour l'ère opérationnelle qui comprend le Kasaï central. Un peu plus de 15 millions d'électeurs sont attendus, a indiqué Denis Kadima au sortir de sa rencontre avec le gouverneur. Une occasion pour lui d'appeler les centres kasaïens à s'enrôler massivement pour les prochaines élections. Écoutez le président de la CENI au micro de François Kadima.
Mes attentes, c'est que la population comprenne le bien fondé de cet exercice. C'est un processus qui doit impliquer tous les Congolais, toutes les Congolaises en âge de s'enrôler et qui remplissent toutes les autres conditions. Et ici, dans cette ère opérationnelle qui comprend le Kasaï central, j'encourage vraiment la population du Kasaï central et des autres 8 provinces de venir s'enrôler en masse et de ne pas attendre la dernière minute parce que nous n'avons que 30 jours ici. Le temps sera bien géré parce que nous avons déjà fait 30 jours à Kinshasa et nous avons appris beaucoup. Les erreurs qui avaient été commises avant, le manque de familiarité avec les machines, tout ça, c'est des choses qui ont été résolues. Donc nous sommes confiants que les leçons apprises dans l'ère opérationnelle 1 vont servir dans l'ère opérationnelle 2 et les choses iront pour le mieux.
L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs débute aussi ce mercredi dans la province du Kasaï oriental. La cérémonie sera lancée dans quelques heures par le gouverneur de province à l'école primaire Nzaba de l'église Kimbangiste située dans la commune de Bipemba. 121 centres d'identification seront ouverts à Mbujimayi. Coup d'envoi aussi à Lubumbashi ce mercredi de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Opération lancée par le secrétaire exécutif national de la CENI pour la province du Haut-Katanga. 3689 agents électoraux ont été formés pour ce faire. Parmi eux, les formateurs provinciaux, les formateurs territoriaux et les membres des centres d'inscription. Pour le gouverneur du Haut-Katanga, l'organisation de cette opération démontre la vitalité de la démocratie dans notre pays. Pour cela, Jacques Yaboula a demandé à toute la population à se mobiliser pour se faire enrôler massivement et surtout pour ne pas attendre le dernier jour. Le secrétaire exécutif national de la CENI a demandé aux différents acteurs à s'impliquer pour mobiliser les électeurs. Toto Mabiku a rappelé que cette opération est gratuite. Pour lui, il n'y aura pas de glissement, nonobstant la rallonge de 25 jours accordée aux provinces de la première ère. C'était avant que le premier ministre Samalou Kondé ne se fasse enrôler. Toujours à propos de l'enrôlement, sachez que les Congolais de l'étranger ont aussi la possibilité de se faire enregistrer et obtenir leur carte d'électeur. 5 pays sont concernés et pour cette deuxième phase de ces opérations, on note 3 pays, soit la France, la Belgique et l'Afrique du Sud. Dans un communiqué rendu public hier, l'ambassade de la RDC en Afrique du Sud invite et encourage tous les Congolais habitant ce pays à aller se faire enrôler. Direction le Nord Kivu. Reprise des affrontements ce mercredi matin sur les deux lignes de front en territoire de Massissi et Rutshuru entre les rebelles du M23 et les FARDC et Mai Mai. La situation reste tendue ce mercredi et plusieurs sources affirment la suspension du trafic sur l'axe Massissi-Kichanga depuis ce matin. Les rebelles du M23 seraient déjà à Rugarama, 2 kilomètres de Kichanga, une grande agglomération de Massissi, mais aussi à Rushebeche. 14 km sur la route Masisi-Kichanga. Du côté de Bwito, les autorités locales affirment que les rebelles occupent depuis ce matin l'entité de Bambo, alors qu'hier, ces derniers étaient déjà repoussés par les FARDC et les Mai Mai. Les affrontements se poursuivent sur toutes les deux lignes des fronts. Le point avec Blaise Shindani Kambala.
D'intenses combats se déroulent dans la matinée dans la région de Kichanga, 2 kilomètres de la cité précisément à Rugarama. Plusieurs sources locales affirment qu'après avoir coupé la route ce matin, les rebelles du M23 tentent sans succès jusque-là d'entrer dans la dite cité. Des tirs sont en cours et l'agglomération se vide de plus en plus, selon les témoignages. Une grande partie de la population est toujours cantonnée devant la base de la Monisco, tandis que d'autres sont partis depuis hier vers Mouesso et ailleurs. D'après la société civile, certaines personnes infiltrées auraient été dénichés ce matin par les forces d'autodéfense en possession des armes dans une maison d'habitation dans Kichanga. En outre, après avoir coupé le trafic ce matin à Rouchebeche, les affrontements se dirigeraient vers Monastère, Kabale, Kasha, Burungu et Tebero, vers les concessions des fermiers. Cette région de Kichanga, où se déroulent ces affrontements, est l'une des zones importantes de Masisi. Non seulement Kichanga a été jadis le quartier général du CNDP, du chef rebelle Laurent Kunda, mais aussi un grand centre des échanges socio-économiques au profit de plusieurs entités. De plus, c'est un carrefour qui relie l'axe Goma-Masisi-Walikale. La nuit majeure, c'est que la ville de Goma est désormais coupée de la partie Grand Nord, car cette route de Masisi restait la seule voie d'approvisionnement entre Goma, Rutshuru, Butembo et Beni. Plusieurs véhicules chargés de voyageurs ont été obligés de faire un demi-tour ce matin de part et d'autre. Cela inquiète beaucoup la population du Nord Kivu.
Par ailleurs, des centaines de morts et des centaines de milliers de déplacés internes à cause de la montée de la violence et de l'instabilité ces derniers temps dans l'est de la RDC, le ACR s'est dit profondément préoccupé, s'étant contenté seulement de 46% des fonds nécessaires en 2022. L'agence onusienne chargée des réfugiés sollicite au moins 233 millions de dollars cette année pour gérer au mieux la question des déplacés internes et des réfugiés dans la région orientale de la RDC. Jules Ngala pour les détails.
Pour le Nord Kivu particulièrement, la recrudescence des affrontements depuis mars 2022 a causé au moins 521 000 déplacés, suite notamment aux bombardements aériens et aux recrutements forcés par les groupes armés. Mais le HCR n'a reçu que 46% des fonds nécessaires en 2022. Et pour l'année 2023, le HCR a besoin de 233 millions de dollars US pour venir en aide aux déplacés internes et aux réfugiés en RDC. Goma, Jules Ngalawamona, Radio Okapi.
Entre-temps, 10 jours après l'attaque à la bombe à Kassindi-Loubiria, une agglomération du territoire de Beni et frontalière avec l'Ouganda, l'état de santé des blessés évolue positivement. 18 d'entre eux sont pris en charge à l'hôpital général de référence de Beni et 6 autres à Goma, où ils ont été évacués par la MONUSCO. Selon le médecin chef de staff à l'hôpital général de référence de Beni, l'appui en médicaments de la MONUSCO pour la prise en charge de ces blessés a été important, vu le nombre d'interventions chirurgicales effectuées par l'hôpital pour sauver la vie de ces blessés, dont 4 ont perdu leurs jambes. Le docteur Jérémy Mouindo explique la situation au micro de Martial Papimoukeba.
10 jours après, les malades sont en train de se remettre. Je crois aujourd'hui, le dernier groupe va passer pour la deuxième fois au bloc opératoire. Nous en avons 18 qui sont en train d'être soignés ici à l'hôpital général de référence de Beni. Et même ceux qui étaient partis à Goma, nous avons les échos qui sont favorables par rapport à leur évolution. Donc, et aussi de ce côté-là, ils sont en train de se remettre petit à petit. Sur les 25 blessés que nous continuons à prendre en charge et à Goma et à Beni, il y en a 4 qui ont eu à perdre leurs jambes. L'appui que nous avons eu à bénéficier de la part de la MONUSCO, ça a été plus dans notre prise en charge parce que, comme je vous dis, comprenez avec moi que c'est des malades qui vont passer une fois, deux fois, trois fois ou même 4 fois au bloc opératoire et à chaque passage au bloc opératoire, que donc c'est des malades qui nous consomment énormément.
Notez que, selon le bilan officiel, l'attaque à la bombe à Kassindi-Loubiria le 15 janvier dernier a causé la mort de 15 civils et au moins 70 autres blessés. Par ailleurs, la MONUSCO doit renforcer sa présence dans des zones encore sous menace des groupes armés pour permettre aux milliers de personnes déplacées de regagner leur village. C'est le plaidoyer fait hier en Ituri par les différentes couches de la population de Kasseni et Chomia dans la plaine du lac Albert à une délégation de la mission onusienne qui s'y est rendue pour recueillir les préoccupations des populations locales. Selon le chef de bureau de la MONUSCO, l'objectif de cette visite était d'échanger autour des besoins de la population pour le retour d'une paix durable dans la zone. Jean-Claude Loki a fait partie de cette équipe. Il nous fait le point dans ce reportage.
Plusieurs sections de la MONUSCO ont fait les déplacements de Kasseni et Chomia pour discuter avec les différents responsables locaux. Une visite de travail s'inscrit dans le cadre du plan de sortie de la mission onusienne en RDC, a dit le chef de bureau de la MONUSCO en Ituri. Pour Marc Canassoro, deux priorités se dégagent au regard du souhait exprimé par ces populations.
Les populations veulent la sécurité, mais aussi en même temps, elles veulent pouvoir créer les conditions pour vivre ensemble en paix. Et des discussions comme celle-ci nous permettent d'informer les priorités qui seront les nôtres.
Ce civil de Kasseni estime que la MONUSCO devra également dans l'immédiat mettre en place des projets communautaires pour soulager la souffrance des populations appauvries par l'activisme des groupes armés, mais surtout faire des plaidoyers pour que des milliers de personnes déplacées regagnent leur village. Des propos soutenus par le chef des secteurs de Bahama Sud, James Catalo.
Nous voulons à ce que la MONUSCO puisse bien définir cet objectif en accompagnant même les militaires des FARDC à restaurer l'autorité de l'État, des grès ou des forces imposer la paix à travers le territoire insécurisé où nous assistons à des massacres qui se font chaque jour.
Le chef de bureau de la MONUSCO promet de canaliser ses demandes auprès de sa hiérarchie, mais aussi d'en discuter avec les responsables des agences du système des Nations Unies pour examiner ce qui peut être fait en urgence. De retour de la plaine de Kasseni-Chomia, Jean-Claude Loki, d'Ile Radio Kapi.
Et puis, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi salue la prochaine visite du pape en République démocratique du Congo. Fulgence Muteba pense qu'en tant que pèlerin de la paix, le pape François va aider à la consolidation de cette paix et à l'enracinement du vouloir vivre ensemble. On écoute l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba, au micro de Jean Gandou.
Attendu que le pape est aussi pèlerin universel de la paix, sa visite dans notre pays est un appel qu'il nous adresse à nous tous, Congolais et Congolaises, à toujours rechercher ce qui contribue à la paix avec ses corollaires, à savoir notamment la justice, la réconciliation, la cohésion nationale, le bien-être de tous, ainsi de suite. À cet égard, cette visite du pontife romain nous engage, nous, chrétiens de Lubumbashi, sur le chemin de la réconciliation et de la cohabitation pacifique, doublé du vivre ensemble dans lequel nous sommes engagés depuis le mois de mai dernier. Enfin, nous attendons de cette visite un nouveau souffle à l'Église Famille de Dieu qui est en République démocratique du Congo, dans sa mission d'évangélisation, dans sa lutte prophétique pour le bien commun en faveur du peuple congolais, et enfin, dans son combat de la résistance contre toute velléité dictatoriale dans notre pays.
Rendons-nous au Kwilu. Au moins 7 décès sont déjà enregistrés dans la prison centrale du cinquantenaire de Bandundu, ce depuis le début du mois de janvier en cours. Et en ce moment, plusieurs autres détenus sont dans un état de santé très dégradant. Les sources de la société civile de cette ville qui alertent attribuent ces décès notamment à la malnutrition occasionnée par le surpeuplement dans cet établissement carcéral et à d'autres pathologies d'ordre hygiénique comme la diarrhée. Selon les mêmes sources, la prison de Bandundu a de la nourriture mais en quantité insuffisante vu le nombre des détenus qui est passé de 250, conformément à sa capacité, à plus de 450. Irène Boma.
La société civile de la ville de Bandundu, qui a mené une enquête dans la prison du cinquantenaire pour palper de doigts les conditions de vie des détenus, rapporte que depuis le début du mois de janvier 2023 jusqu'à ce jour, au moins 7 prisonniers sont décédés dans cette maison carcérale. Et les 2 derniers décès en date ont été enregistrés dimanche dernier. Dieudonné Nzimbu, membre de la société civile de Bandundu, qui déplore ces décès, en explique les causes et plaide pour une solution.
Ces décès sont causés par la malnutrition et en autre cas de maladies, parfois diarrhéiques, liées aussi à un problème d'hygiène. Cette malnutrition est due à un surpeuplement de la prison. Au lieu de 250, on se retrouve à 455. Le surplus est dû aux assaillants du conflit Tekeyaka. Le touffement peut aussi être une des causes. En réalité, la prison ne manque pas la nourriture pour les prisonniers. Mais le vrai problème, c'est que c'est la quantité qui diminue pour satisfaire tout le 455. L'État congolais doit faire un effort de renforcer les dépôts de la prison en nourriture, aussi en médicaments.
Finalement qu'en 2022, la prison du cinquantenaire de Bandundu avait enregistré au moins 18 décès, dus pour la plupart des cas à l'épidémie de varicelle entre février et avril. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Actualité internationale. Madagascar, le cyclone Chénesso continue de frapper l'île avec plus de 15 000 personnes touchées à ce jour. Plusieurs quartiers de Mahajanga, dans le nord-ouest de Madagascar, ont été inondés, ainsi que les routes qui les relient à la capitale, Antananarivo. Afin de limiter les catastrophes, de nombreux villageois ont été invités à quitter leurs maisons. La capitale de la Corée du Nord, Pyongyang, est confinée pour 5 jours en cause une maladie respiratoire, rapporte ce mercredi un site spécialisé sud-coréen. La mesure semble être la première prise à l'échelle de la ville depuis que le pays a déclaré sa victoire sur le Covid-19 en août 2022. Les habitants de Pyongyang ont reçu l'ordre de rester à leur domicile de mercredi à dimanche et doivent se soumettre à des multiples prises de température chaque jour, a rapporté le site spécialisé NK News.
L'invité.
L'État congolais doit rétablir son autorité dans tout le territoire de Kabambare et dans le Maniema. C'est le vœu de la coordonnatrice nationale du réseau national des ONG pour le développement de la femme, RENADEF, Marie Nyombozaina, le dit dans un entretien exclusif accordé à Radio Kapi concernant les images qui ont circulé dans les réseaux sociaux montrant des atrocités commises sur les jeunes filles et même des personnes de troisième âge à Kabambare. Marie Nyombozaina, notre invitée, s'entretient avec Blaise Shindani Kambala.
Marie Nyombozaina, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Madame, vous avez vu les images qui ont circulé dans les réseaux sociaux. Comment mettre fin à ces atrocités, d'après vous?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Quand je vis les images, j'étais estomaqué. J'étais déçu. J'ai pleuré. Donc, je me suis dit, Seigneur, on est où? Est-ce que c'est des gens ou c'est des animaux? Même les animaux, on ne peut pas les traiter comme ça. Donc, c'est des images qui m'ont traumatisé en tant que défenseur des droits humains, parce que le RENADEF qui est là, c'est ça la matière que nous traitons à travers la République démocratique du Congo. Je me retrouve dans ce territoire qui est mon territoire d'origine. J'étais vraiment dépassée. Je manque les mots pour exprimer ce que j'ai ressenti le jour où j'ai vu les images circuler. Mais ben, qu'est-ce que je devrais faire si ce n'est que dénoncer et poursuivre les échanges avec les différents leaders, que ça soit féminin, que ça soit masculin, pour essayer de voir comment trouver des solutions d'ensemble.
D'après vous, comment faire vraiment pour arrêter ces atrocités?
Pour arrêter ces atrocités, moi je continue à insister que nous devons aller dans le sens de pouvoir responsabiliser l'État congolais. Il y a vraiment absence de l'autorité de l'État à Saramabila. Parce que là où il y a l'autorité de l'État, personne ne peut se prétendre être au-dessus de la loi, en train de faire des actes d'exaction comme ça, les actes de violence, tels que nous les avons vus dans les vidéos qui circulent. Donc pour moi, c'est continuer à marteler sur la responsabilité de l'État congolais. L'État doit être présent dans ces territoires pour récupérer son pouvoir et remettre de l'ordre. Ça, c'est ce que nous avons vu. Mais les autres actes de violence, on n'a pas vu. Les jeunes filles sont violées nuit et jour. Les jeunes femmes, on n'en parle pas. Donc, c'est une situation que moi, je considère qu'il y a vide. Il y a vide de l'État dans le territoire de Kabambare. Parce que là où il y a l'État congolais, monsieur le journaliste, on ne peut pas vivre de telles situations. C'est horrible, c'est honteux, ça amène même la froideur d'en parler. Donc pour moi, c'est pousser l'État à pouvoir récupérer son autorité, établir les responsables, ça peut aider à résoudre cette situation. Maintenant, c'est n'importe qui, hein. Ils peuvent sortir dans la forêt, on ne sait plus c'est qui. Aujourd'hui, nous parlons de Maïmaï, Malaïka, et maintenant, il y a trop de groupes qui se sont multipliés, on n'arrive plus à comprendre c'est quoi au juste le problème. On ne comprend pas. La guerre, elle est là. Nous parlons de Ituri, nous parlons de Nord-Kivu, nous parlons de tout ce qui se passe. Mais Kabambare, c'est quoi ça, cette situation? Est-ce que c'est ça la guerre ou c'est la maltraitance de la population? Et si la population est maltraitée, où est l'État? Moi, je remets tout sur la tête de l'État congolais. Il doit établir son autorité et récupérer les choses en main le plus vite possible. Parce que ça ne fait que commencer. La crainte est que si l'éveil de conscience continue à se manifester auprès des toutes les communautés, je dirais des Kabambare, bien sûr. Quand je parle Kabambare, je vois Kasongo. Quand je vois Kasongo, je vois tous les territoires de la province du Maniema. Nous risquerons d'avoir ce qu'on appelle les guerres civiles qui n'ont ni tête ni pied. Et après, l'État aura du mal à calmer ces guerres-là et que les bourreaux soient poursuivis au niveau de la justice.
Oui, que les bourreaux soient poursuivis au niveau de la justice. Vous êtes un réseau qui regroupe plusieurs ONG pour le développement de la femme. Vous venez nous dire, madame, quelle est la situation des victimes et que comptez-vous faire pour les accompagner ou les aider?
Présentement, nous travaillons justement sur cette question d'accompagnement des victimes à travers les provinces de la RDC. Nous sommes dans au moins 16 provinces. Nous avons des cliniques juridiques qui travaillent sur cette question. Donc, c'est des organisations de défense des droits humains. Nous accompagnons les cas, bien sûr, avec les partenaires Fonds Mondial. On avait la possibilité de payer les avocats pour recueillir les cas, les accompagner jusqu'au niveau de l'obtention de leur jugement et voir comment arriver à les accompagner psychologiquement, aussi la réinsertion sociale.
Mais est-ce que RENADEF a approché les autorités locales?
Dans notre approche de travail, nous travaillons avec les autorités. RENADEF, dans son travail, il travaille avec la police. La police accompagne RENADEF dans la dénonciation des cas de violation des droits humains. Donc pour l'instant, dans les provinces où nous sommes, la police connaît RENADEF. Parce qu'il y réfère les cas. Et ensemble avec la police, nous essayons de mettre en place des stratégies pour éradiquer les violences.
Marie Nyombo Zaina, vous êtes coordonnatrice nationale du RENADEF. Je vous dis merci beaucoup.
C'est à moi de vous remercier, messieurs les journalistes.
Notre invité répondait aux questions de Blaise Shindani Kambala. C'est la fin de ce journal coordonné par Élisée Chikotachi Vueta sous la supervision de Martès Ebujangwe, à la mise en onde Mimi Kindou, Belinda Bosuma devant ce micro. Merci de votre attention.